nouveau royaume de David, compris comme instauration du royaume même de Dieu.
Puisque l'évangile de Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens, il s'agit là d'un arbre généalogique dessinant une histoire juive du salut, qui ne se réfère que très indirectement à l'histoire universelle. Le royaume du nouveau David étant le royaume de Dieu, il concerne aussi naturellement le monde dans sa totalité. De ce fait, la datation concrète demeure floue, puisque le décompte des générations n'est pas vraiment fait dans le cadre d'une structure historique. Ce qui est déterminant, c'est le rythme ternaire de la promesse, sans intention d'établir un découpage temporel précis. Remarquons immédiatement que Luc ne place pas sa généalogie de Jésus au début de son évangile, mais qu'il la relie au baptême du Christ, dont elle est la conclusion. Il nous dit que, à cette époque, Jésus était âgé d'environ 30 ans, et qu'il avait donc atteint l'âge auquel il est légitime d'avoir une activité publique. Dans sa généalogie, Luc, contrairement à Matthieu, part de Jésus et remonte l'histoire antérieure. N'accordant aucune importance particulière à Abraham et à David, le récit généalogique remonte jusqu'à Adam, voire jusqu'à la création, puisque, au nom d'Adam, Luc ajoute « fils de Dieu ». Par là même, c'est la mission universelle de Jésus qui se trouve mise en exergue. Étant fils d'Adam, il est fils de l'homme. Du fait de sa condition d'homme, nous faisons tous partie de lui et lui fait partie de nous. En lui, l'humanité connaît un nouveau départ et parvient à son accomplissement. Mais revenons au récit du baptême. Luc avait déjà donné deux dates essentielles dans les récits de l'enfance. Concernant la naissance de Jean le Baptiste, il nous dit qu'il faut la situer au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée. 1-5. Alors que la datation de la vie de Jean le Baptiste reste ainsi ancrée dans l'histoire du peuple juif, l'histoire de l'enfance de Jésus commence par ces mots « En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste. » 2-1. Cette fois, c'est la grande histoire, l'histoire universelle incarnée par l'Empire romain qui se trouve à l'arrière-plan. C'est ce fil de l'histoire que reprend Luc lorsqu'il introduit le récit du baptême, début de l'activité publique de Jésus. Il nous dit alors, avec solennité et précision, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode prince de Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. 3-1-2. Cette référence renouvelée à l'empereur romain situe Jésus dans le temps de l'histoire universelle. L'activité de Jésus ne doit pas appartenir à un temps mythique quelconque, pouvant à la fois signifier toujours et jamais. C'est un événement historique précisément datable, avec tout le sérieux d'une réalité historique humaine, quelque chose d'unique, dont le mode de présence à toutes les époques excède considérablement la temporalité du mythe. Cependant, il ne s'agit pas là seulement de datation. L'empereur et Jésus personnifient deux ordres de réalités différents, qui ne s'excluent pas obligatoirement l'un l'autre, et dont le face-à-face recèle un conflit potentiel concernant les questions fondamentales de l'humanité et de l'existence humaine. À César, rendez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12-17, dira plus tard Jésus, formulant ainsi la compatibilité fondamentale des deux sphères. Mais alors que l'empereur se définit lui-même comme divin, ce que présuppose Auguste quand il se présente comme celui qui apporte la paix au monde et le salut à l'humanité, le chrétien, lui, doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5-29. Les chrétiens deviennent alors des martyrs, des témoins du Christ, qui est lui-même mort sur la croix sous Ponce Pilate en tant que témoin fidèle. Apocalypse 1-5. Avec la citation du nom de Ponce Pilate, l'ombre de la croix se profile dès le début de l'activité publique de Jésus. La croix s'annonce également dans les noms de Hérode, Anne et Caïphe. Mais quelque chose d'autre est anticipé par la coexistence de l'empereur et des princes qui se partagent la Terre Sainte. Toutes ces principautés dépendent de la Rome païenne. Le royaume de David est brisé, sa tente est délabrée. Amos 9:11-15. Le descendant, père de Jésus selon la loi, est un artisan qui habite la province de Galilée, où vivent aussi des populations païennes. Israël vit une fois de plus l'obscurité de Dieu. Les promesses faites jadis à Abraham et à David semblent s'être abîmées dans le silence de Dieu. Et la même plainte s'élève de nouveau. Nous n'avons plus de prophètes. Dieu semble avoir abandonné son peuple. Pour les mêmes raisons, le pays est en proie à des troubles. Des mouvements, des espoirs et des attentes antagonistes dominent le climat religieux et politique. À peu près à l'époque de la naissance de Jésus, Judas le Galiléen a appelé à une révolte qui fut réprimée dans le sang par les Romains. Son parti, celui des Zélotes, qui continuait à exister, ne refuse ni la terreur ni la violence pour restaurer la liberté d'Israël. Il n'est pas exclu que l'un ou l'autre parmi les 12 apôtres, Simon le Zélote et peut-être aussi Judas Iscariote, aient été partisans de ce mouvement. Les pharisiens que nous rencontrons fréquemment dans les évangiles tentent de leur côté de mener une vie d'observance stricte des préceptes de la Torah et de se soustraire à la culture unifiée hellénistique et romaine qui s'imposait quasiment d'elle-même sur le territoire de l'Empire romain et menaçait d'aligner Israël sur le mode de vie des peuples païens du reste du monde. Les Sadducéens, qui font majoritairement partie de l'aristocratie et de la classe sacerdotale, s'efforcent de vivre un judaïsme éclairé, conforme au modèle spirituel de l'époque, et partant de s'adapter à la domination romaine. Ils disparaîtront après la destruction de Jérusalem, 70 après Jésus-Christ, alors que le mode de vie adopté par les pharisiens trouvera une incarnation durable dans le judaïsme imprégné par la Mishnah et le Talmud. Même si dans les évangiles, d'âpres oppositions mettent aux prises Jésus et les pharisiens, et même si sa mort en croix est en totale opposition avec le programme des Zélotes, nous ne devons pas oublier que les gens qui sont allés vers le Christ provenaient d'horizons très divers et que la communauté chrétienne primitive comprenait aussi beaucoup de prêtres et d'anciens pharisiens. Le hasard d'une découverte archéologique dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale a permis de réaliser des fouilles à Qumran et de mettre au jour des textes qui, d'après certains spécialistes, sont reliés à un mouvement plus large, les Esséniens, connus jusqu'alors seulement d'après des sources littéraires. Ce groupe s'était détourné du temple d'Hérode et de son culte pour créer des communautés monastiques dans le désert de Judée, mais aussi des communautés de familles obéissant à des règles fondées sur la religion. Ils ont également laissé une littérature très riche et instauré des rites originaux, comprenant notamment des ablutions liturgiques et des prières dites en commun. Nous sommes touchés par le sérieux et la foi dont témoignent ces écrits. Il semble que Jean le Baptiste, mais aussi peut-être Jésus et sa famille, étaient proches de cette communauté. En tout état de cause, les manuscrits de Qumran présentent de multiples analogies avec le message chrétien. Il n'est pas exclu que Jean le Baptiste ait vécu un certain temps au sein de cette communauté et qu'il lui doive une bonne partie de sa formation religieuse. Il n'empêche que l'apparition du Baptiste demeure quelque chose de radicalement nouveau. Le baptême auquel il appelle se distingue des ablutions religieuses habituelles. Il ne peut être répété et doit être l'accomplissement concret d'une conversion qui redéfinit pour toujours la vie entière. Il est lié à un appel enflammé pour un nouveau mode de pensée et d'action, lié surtout à l'annonce du jugement de Dieu et à la venue d'un plus grand qui viendra après Jean. Le quatrième évangile nous dit que cet être plus grand auquel il doit préparer la voie, le Baptiste ne le connaissait pas, Jean 1, 30, 33. Mais il sait que son rôle est de préparer la voie à cet autre mystérieux et que toute sa mission est centrée sur lui. Dans les quatre évangiles, cette mission spécifique est décrite par une citation d'Isaïe. Une voix proclame « Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur ». Tracer dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Isaïe 40:3. Marc ajoute encore des éléments associant Malachie 3:1 et Exode 23:20 que nous trouvons dans un autre contexte également chez Matthieu 11:10 et chez Luc 1:76-7:27. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer la route. Marc 1:2. Dans tous ces textes de l'Ancien Testament, il est question d'une intervention salvifique de Dieu qui sort de son silence pour juger et sauver. C'est à lui qu'il faut ouvrir la porte, c'est pour lui.